Chapitre 8. Le Seigneur des Trois Règnes. La seconde proie de Tintaglia fut un ours. Elle se mesura à lui, prédateur contre prédateur, le battement de ses ailes contre les coups de ses immenses pattes griffues. Elle l'emporta, bien sûr, et l'éventra pour se repaître de son foie et de son cœur. La lutte assouvit quelque chose dans son âme. C'était la preuve qu'elle n'était plus une créature impuissante, implorante, prisonnière dans le cercueil de son propre corps. Elle avait laissé les hommes qui avaient par bêtise coupé les corps de ses frères et sœurs. Ce n'était pas leur faute si elle avait été emprisonnée. C'était par ignorance, principalement, qu'ils avaient massacré sa famille. Enfin, deux d'entre eux avaient été prêts à tout sacrifier pour la libérer. Il ne lui appartenait pas de décider si le sauvetage contrebalançait le meurtre. Elle les avait laissés, pour toujours. Aussi suave qu'elle eût été, la vengeance n'aurait pas sauvé les éventuels survivants. Son premier devoir était envers eux. Elle avait dormi un moment en travers de sa victime. La lumière dorée du soleil d'automne l'avait baignée tout au long de l'après-midi. En se réveillant, elle était parée à continuer. Durant son sommeil, elle avait vu clairement ce qu'elle allait faire ensuite. S'il y avait des survivants de sa race, ils seraient sur leurs anciens terrains de chasse. Elle commencerait par là ses recherches. Alors elle s'était élevée, abandonnant la carcasse de l'ours dont la chair fétide bourdonnait déjà de centaines de mouches bleues scintillantes. Elle avait éprouvé ses ailes, ressenti les forces nouvelles qu'elle avait prises de son gibier. Il aurait été bien plus naturel pour elle d'émerger au début du printemps. Elle aurait profité de tout l'été pour grandir et se développer avant l'arrivée de l'hiver. Elle savait qu'il lui faudrait chasser et se nourrir aussi souvent que possible durant cette période de moisson où les jours raccourcissaient, acquérir de la vigueur pour affronter l'hiver. Eh bien, c'est ce qu'elle ferait, car sa survie passait avant tout et en même temps, elle rechercherait ses semblables. Elle s'élança de la colline ensoleillée où l'ours avait trouvé la mort et s'éleva dans le ciel d'un battement d'ailes régulier. Elle monta là où le vent était plus fort, puis se laissa porter par les courants en décrivant de lentes spirales au-dessus des terres. Elle cherchait des traces. Les berges fangeuses et les bas-fonds auraient dû montrer des passées, des marques des bas, mais rien. Elle vola au-dessus de hautes saillies rocheuses, propices au bain de soleil et à l'accouplement, mais elles étaient toutes vierges des griffades par lesquelles les dragons délimitaient leur territoire et des ravages qui auraient dû témoigner de leur passage. Ses yeux plus perçants que ceux du faucon n'aperçurent aucun dragon chevauchant les courants d'air au-dessus du fleuve. Au loin, l'azur était vide de dragons jusqu'aux confins de l'horizon. Son odorat, au moins aussi développé que sa vue, ne lui apportait aucune odeur musquée de mâle, pas même un ancien fumé de marquage. Dans cette large vallée fluviale, elle était seule. Les seigneurs des Trois Règnes étaient des dragons. Ils avaient régné sur le ciel, la mer et en bas sur la terre. Personne ne les avait égalés en magnificence et en intelligence. Comment pouvaient-ils avoir tous disparu? C'était incompréhensible. Quelque part, il devait y avoir des survivants. Elle les trouverait. Elle décrivit un grand cercle indolent en scrutant la terre à la recherche de traces. Tout s'était effacé. Au cours de ces longues années, le fleuve s'était déplacé dans son vaste lit. Des inondations et des tremblements de terre avaient refaçonné la terre à d'innombrables reprises. Grâce à ses souvenirs ancestraux, elle se rappelait que de nombreux changements s'étaient déjà produits dans la topographie de cette région. Mais les changements qu'elle constatait aujourd'hui paraissaient plus radicaux. Elle comprit que toute la région s'était enfoncée. Le fleuve semblait plus large, moins profond, ses limites moins précises. Là où autrefois le puissant fleuve des serpents se précipitait dans la mer, le fleuve du désert des pluies sinuait paresseusement parmi les marais et les tourbières. La cité des hommes, Troanous, était construite aux alentours des ruines ensevelies de l'antique Clocheteinte. Les anciens avaient choisi ce site à proximité des lieux de nidification des dragons. Jadis, il y avait ici de larges bas-fonds dans le méandre du fleuve des serpents. Ici, la pierre de mémoire avait brillé comme le sable noir argenté d'une plage étincelante. Durant les automnes d'autrefois, les serpents sortaient du fleuve pour se vautrer sur les rives abritées. Assistés des dragons adultes, ils formaient leur cocon avec de longues traînées de salive mêlées aux riches sables de mémoire. Chaque automne, les cocons jonchaient la plage comme d'immenses coques de graines en attente du printemps. Les dragons et les anciens montaient la garde tout l'hiver près des enveloppes durcies qui protégeaient les créatures destinées à se métamorphoser. La lumière de l'été et la chaleur venaient enfin effleurer les cocons et réveiller les créatures qui dormaient à l'intérieur. Disparu. Tout avait disparu. La plage et les anciens et les dragons gardiens, tous disparus. Mais, se dit-elle farouchement, Clochetinte n'est pas la seule plage de nidification. Il y en a d'autres en amont du fleuve des serpents. L'espoir le disputait au doute alors qu'elle virait de l'aile et remontait le fleuve. Il se pouvait qu'elle ne reconnaisse plus la configuration du pays, mais les anciens avaient bâti des cités près des plages aux cocons. Il devait bien subsister quelque chose de ces ruches tentaculaires aux édifices de pierre et aux rues pavées. Elle pourrait au moins explorer l'endroit où sa race avait éclos. Peut-être, osait-elle espérer, les alliés des dragons vivaient-ils encore dans certaines de ces antiques cités? Si elle ne découvrait aucun membre de son espèce, elle trouverait peut-être quelqu'un qui lui apprendrait ce qu'ils étaient devenus. Le soleil était implacable dans le ciel bleu. Le lointain orbe jaune promettait la chaleur, mais les brumes perpétuelles du fleuve les trempaient et les glaçaient. Malta avait l'impression d'avoir la chair à vif. Les lambeaux de ses vêtements indiquaient clairement que les brouillards étaient aussi caustiques que l'eau du fleuve. Elle était criblée de piqûres d'insectes qui la démangeaient continuellement, mais sa peau était si irritée que se gratter la faisait saigner. L'impitoyable miroitement de l'eau l'éblouissait. En se palpant le visage, elle sentait ses yeux bouffis, réduits à des fentes, et sur son front les bourrelets, les excroissances charnues de sa cicatrice. Elle n'arrivait pas à s'installer confortablement dans le petit canot, car les bancs de nage en bois n'étaient pas assez larges pour qu'on puisse s'y étendre. Elle devait se contenter de se caler dans une position à demi allongée en se couvrant les yeux de son bras. La soif surtout la torturait. Avoir la gorge sèche et être entourée d'eau non potable, c'était de loin le pire des supplices. La première fois qu'elle avait vu Keki prendre de l'eau au creux de sa main et la porter à sa bouche, Malta s'était précipitée sur elle en lui criant d'arrêter. Elle l'avait empêché de boire cette fois-là, mais, à en juger par le silence de la compagne et par ses lèvres boursouflées et écarlates, Malta en déduisait qu'elle avait cédé à la tentation et à plusieurs reprises. Allongée dans le petit canot qui se balançait, poussé par le fleuve, Malta se demandait pourquoi elle s'en inquiétait. Aucune réponse ne lui venait à l'esprit, et pourtant, à l'idée que cette femme buvait l'eau qui finirait par la tuer, elle enrageait. Dessous le bras qui l'abritait, elle observait la compagne. La belle robe de soie verte qui l'aurait autrefois fait mourir d'envie paraissait plus loqueteuse encore que les vêtements de Malta. La coiffure alambiquée n'était plus qu'un enchevêtrement de boucles autour du front et dans le dos. Elle avait les yeux clos et ses lèvres se gonflaient au rythme de sa respiration. Était-elle déjà en train de mourir? Combien d'eau fallait-il avaler pour mourir? Malta se surprit à se demander si elle n'allait pas mourir de toute façon. Elle était sotte, peut-être. Ne valait-il pas mieux boire, étancher sa soif et ainsi mourir plus vite?
Peut-être qu'il va pleuvoir,
croassa le gouverneur plein d'espoir. Malta remua les lèvres et décida de répondre.
La pluie, ça tombe des nuages, et des nuages, il n'y en a pas.
Il garda le silence, mais elle perçut l'exaspération qui irradiait de lui comme la chaleur d'un foyer. Elle n'avait pas l'énergie de se retourner pour lui faire face. Pourquoi même lui avoir parlé? Ses pensées vagabondes la ramenèrent à la veille. Elle avait senti quelque chose l'effleurer, tenace et pourtant aussi impalpable qu'une toile d'araignée sur son visage dans le noir. Elle avait regardé autour d'elle sans rien voir. Alors elle avait levé les yeux vers le ciel et aperçut le dragon. Elle en était certaine. Elle avait vu un dragon bleu. et quand il avait incliné les ailes, le soleil avait argenté ses écailles. Elle avait poussé des cris, elle l'avait supplié de leur venir en aide. Ces cris avaient étiré le gouverneur et sa compagne de leur somnolence. Mais quand elle avait pointé le doigt pour qu'ils regardent eux aussi, ils avaient affirmé ne rien voir. Peut-être un merle tout petit au loin, mais c'était tout. Le gouverneur s'était moqué d'elle en lui disant que seuls les enfants et les paysans ignorants croyaient encore aux légendes de dragons. Elle avait été si furieuse qu'elle ne lui avait plus adressé la parole, pas même quand à la nuit tombée il n'avait cessé de se plaindre de l'obscurité, du froid et de l'humidité. Il avait l'art de la rendre responsable de tous les désagréments, ou d'en accuser les marchands de Terrilleville ou du désert des pluies. Elle commençait à en avoir assez de ses pleurnicheries. C'était plus exaspérant que le bourdonnement des petits moustiques qui les attaquaient au crépuscule et se repaissaient de leur sang. Quand enfin l'aube avait pointé, Malta avait tâché de se convaincre qu'avec elle pointait aussi l'espoir. La planche qu'elle avait utilisée pour pagayer n'avait duré que jusqu'au milieu de la matinée. Les efforts qu'elle avait déployés pour faire dévier l'embarcation du courant avaient été à la fois épuisants et infructueux. La planche, rongée par l'eau, s'était désagrégée dans ses mains. Maintenant, ils étaient assis dans le canot aussi démunis que des enfants tandis que le fleuve les emportait toujours plus loin de Trois-Nous. Comme un gamin insupportable et désœuvré, le gouverneur cherchait sans cesse querelle.
« Pourquoi n'est-on pas venu à notre secours ? »
demanda-t-il soudain. Elle lui répondit par-dessus son épaule.
« Pourquoi nous chercherait-on ici ? »
fit-elle sèchement.
« Mais vous avez crié quand on a dépassé Trois-Nous. On a tous crié. »
« Crier et être entendu, ce n'est pas la même chose. »«
Qu'allons-nous devenir ?»
Kiki avait parlé si bas, d'une voix si étouffée, que Malta eut du mal à saisir ses paroles. La compagne avait ouvert les yeux et la regardait. Malta se demandait si ses yeux à elle étaient aussi injectés de sang.
« Je ne sais pas. »
Elle remuait la bouche en essayant d'humecter sa langue.
« Si nous avons de la chance, nous pouvons être entraînés d'un côté et pris dans un bas-fond ou un bras mort. Si nous avons beaucoup de chance, nous pouvons rencontrer une vive nef qui remonte le fleuve. Mais j'en doute. J'ai entendu dire qu'elles étaient toutes parties pour chasser les navires chalcédiens de Terrilleville. Le fleuve finira bien par nous emmener jusqu'à la mer. » Peut-être croiserons-nous d'autres vaisseaux là-bas qui nous porteront secours, si notre canot tient jusque-là.
Et si on vit assez longtemps, ajouta-t-elle en son fort intérieur.
Nous allons probablement mourir,
rétorqua le gouverneur d'un ton solennel.
Ma mort prématurée sera une immense tragédie. Elle sera suivie de beaucoup, beaucoup d'autres. Car après ma disparition, il n'y aura plus personne pour maintenir la paix entre mes nobles. Personne ne s'assiera sur le trône de perles après moi, car je meurs dans la fleur de ma jeunesse, sans héritier. Tous vont pleurer mon trépas. Khalsen ne craindra plus de provoquer Jamelia. Les pirates vont faire leurs incursions et incendier impunément. Tout mon vaste et bel empire va tomber en ruine. Et tout ça à cause d'une sotte, d'une rustaude trop ignorante pour comprendre qu'on lui offrait une chance d'améliorer sa condition. »
Malta se redressa si vivement que le petit canot se mit à tanguer follement. Sans se soucier des gémissements affolés de Kiki, elle se tourna et fit face à Kosgo. Il était à l'avant, les genoux ramassés sous le menton, les bras serrés autour des jambes. Il avait l'air d'un méchant gamin de 10 ans. Sa peau pâle, protégée si longtemps des éléments, était doublement ravagée par l'eau et le vent. Au bal de Terrilleville, ses traits délicats et son teint blême avaient paru exotiques et romanesques. Maintenant, on aurait simplement dit un enfant souffreteux. Elle résista à grand-peine à l'envie subite et violente de le pousser par-dessus bord.
« Sans moi, vous seriez déjà mort, » déclara-t-elle sans embâge. « Vous étiez enfermé dans une pièce qui se remplissait de boue et d'eau. Vous avez déjà oublié ?»«
Et comment je m'y suis retrouvé dans cette pièce ?»« Grâce aux machinations de vos concitoyens. Ils m'ont agressé, m'ont enlevé, et pour autant que je le sache, Ils m'ont déjà envoyé leur demande de rançon. »
Il s'interrompit net, toussa, puis articula avec difficulté.
« Je n'aurais jamais dû venir dans votre ville minable. J'y ai trouvé quoi ? Non point les monts et merveilles auxquels Céry m'avait donné à croire, mais un sale petit port plein de marchands cupides, avec leurs filles prétentieuses et sans manières. Mais regardez-vous ! Un instant de beauté, c'est tout ce que vous aurez jamais connu. Toute femme est belle au moins un mois dans sa vie. Eh bien pour vous, il est passé, ce bref épanouissement, avec votre peau sèche et cette croûte sur le front. Vous auriez dû saisir l'occasion de m'amuser un peu. Alors j'aurais pu vous emmener à la cour, par pitié pour vous, et vous auriez été au moins en mesure d'entrevoir ce que c'est que vivre dans le raffinement. Mais non, vous vous êtes refusé à moi. Et j'ai été forcé de m'attarder à votre sauterie de manants et de servir de cible à des brigands et des voleurs. Jamais Lia va vaciller et s'écrouler sans moi. Et tout ça parce que vous vous faites une idée exagérée de votre petite personne. »
Il se reprit à tousser et tira la langue dans une vaine tentative pour humecter ses lèvres sèches.
« On va mourir sur ce fleuve. »
Il renifla. Une larme perla au coin de son œil et coula le long de son nez. Malta ressentit tout à coup une haine sans mélange, plus pure que toutes les émotions éprouvées dans sa vie.
« J'espère bien que vous y passerez le premier, que je puisse vous regarder mourir !»
croassa-t-elle.
« Traîtresse !»
Kosgo leva un doigt tremblant qu'il pointa sur elle.
« Seule une traîtresse oserait me parler ainsi ?» « Je suis le gouverneur de Jamelia. Je vous condamne à être écorchée vive et brûlée. Je jure que si j'en réchappe, je veillerai à ce que ma sentence soit exécutée. »
Il jeta un coup d'œil à Kéki.
« Compagne, sois témoin de mes paroles. Si je meurs et que tu survis, il est de ton devoir de faire connaître ma volonté. Tu veilleras à ce que cette scélérate soit châtiée. »
Malta le foudroya du regard sans répondre. Elle essayait en vain de produire de la salive pour humecter sa gorge. Cela l'exaspérait d'être incapable de riposter, mais elle n'avait pas le choix. Elle lui tourna le dos. Tintaglia se reput d'un marcassin étourdi. Elle l'avait repéré qui fouillait la terre à la lisière d'un bosquet de chênes. À sa vue, à son fumet, la faim avait grondé dans son ventre. Le cochon sauvage ahuri s'était redressé, l'avait regardé fondre sur lui avec curiosité. Au dernier moment, il avait brandi ses dagues, comme si cela avait pu la faire fuir. Elle l'avait dévoré en quelques bouchées, ne laissant guère que des feuilles maculées de sang et des rognures comme preuve qu'il eût jamais existé. Puis, elle s'était envolée. Elle était presque effrayée par sa propre voracité. Pendant le reste de l'après-midi, elle vola bas, en chassant, et tua deux fois encore un daim et un autre sanglier. Et ils assouvirent sa faim, mais pas au-delà. Le grondement de son ventre la distrayait de ses intentions arrêtées. À un moment, elle leva les yeux pour parcourir l'étendue de terre, et elle s'aperçut soudain qu'elle n'avait pas fait attention à la direction qu'elle avait prise dans son vol. Le fleuve était hors de vue. Elle se força à oublier son estomac. Vivement, elle s'éleva au-dessus de la vallée marécageuse jusqu'à retrouver le fil étranglé du fleuve. Ici, les arbres empiétaient sur l'eau et les rives fangeuses s'étendaient largement sous le dais de la forêt. Rien qui soit engageant par là. Elle remonta en amont, mais cette fois, elle se dirigea correctement, volant très vite et cherchant sans cesse une marque familière ou une trace laissée par les anciens. Lentement, le fleuve s'élargit de nouveau et la forêt recula. Bientôt, il reprit possession des berges herbeuses et Tintaglia suivit ses ondulations dans les collines basses. La terre alentour était plus ferme, davantage forêt que marais. Puis, avec une soudaineté stupéfiante, elle reconnut où elle se trouvait. À l'horizon, dans un méandre du fleuve, elle entrevit la tour carte de Kelsingra qui miroitait dans le soleil couchant. Son cœur bondit. La tour était toujours là, et les yeux du dragon reconnurent les bâtiments familiers qui l'environnaient. Mais l'instant d'après, son cœur se serra. Elle ne percevait aucune odeur de fumée, ni cheminée, ni fonderie, ni forge. Elle vola vers la cité. Plus elle approchait, plus la mort devenait évidente. La route n'était pas seulement vide de la circulation qui l'avait animée jadis. À un endroit, un glissement de terrain l'avait complètement cisaillée. Tintaglia sentait vibrer dans la pierre les souvenirs emmurés des marchands, des soldats, des nomades qui l'avaient traversée jadis. L'herbe et la mousse n'en étaient pas venues à bout. La route brillait toujours, noire, droite et plane, en se dirigeant avec netteté vers la cité. Personne au monde sauf elle ne savait plus qu'elle avait été une grande artère. Tintaglia décrivit des cercles autour de la cité désertée et contempla sa destruction. Les anciens avaient bâti leur ville afin qu'elle durât des siècles, tenant allègrement pour établi qu'ils flâneraient toujours dans ses rues et occuperaient ses agréables demeures. Aujourd'hui, le vide raillait ses illusions de mortels. Un jour, par le passé, un cataclysme avait coupé la cité en deux. Une énorme crevasse la divisait et le fleuve s'était emparé de la partie affaissée. Tintaglia entrevit dans le gouffre les décombres des bâtiments. Elle cligna les yeux, se forçant à voir la cité comme elle était, et non à travers le souvenir qu'en conservait la pierre. Ainsi les anciens avaient-ils bâti, taillant la pierre de mémoire et la portant ainsi pour ériger leur belle cité sur les prairies au bord du fleuve. Ils avaient lié la pierre en y faisant pénétrer leurs idées sur ce qu'elle devait être. La cité se dressait, fidèle et silencieuse. Tintaglia accéda à la ville comme les dragons l'avaient toujours fait, et elle faillit se tuer. Ses souvenirs ancestraux lui disaient que les dragons atterrissaient sur le fleuve, ce qui rendait leur arrivée spectaculaire. La descente dans l'azur et le plongeon dans l'eau fraîche faisaient jaillir de gigantesques éclaboussures plumeuses et tanguer les navires accostés dans leur poste d'amarrage. L'eau amortissait l'atterrissage, le dragon émergeait des froides profondeurs sur le rivage de galets, accueilli par les hurrahs et les saluts du peuple rassemblé. Le fleuve était beaucoup moins profond que dans ses souvenirs. Au lieu de plonger complètement, Tintaglia tomba à plat à la surface. L'eau lui arrivait à peine à l'épaule et elle eut de la chance de ne pas se briser les membres. Seuls ses muscles puissants avaient amorti sa chute et lui avaient évité de se blesser. Elle se cassa deux griffes à la patte antérieure et se meurtrit douloureusement les ailes en se rattrapant et en pataugeant pour sortir du fleuve, accueillie non plus par les vivats et les chants, mais par le murmure du vent parmi les bâtiments abandonnés. Elle eut l'impression de déambuler dans un rêve. La pierre de mémoire était presque résistante à l'envahissement de la vie organique. Aussi longtemps qu'elle se souviendrait de ce qu'elle était censée être, elle rejetterait les racines vrillées des plantes. La faune qui aurait pu s'approprier la cité pour nicher ou gîter était écartée par les souvenirs des habitants enchâssés dans la pierre. Même après toutes ces années, la nature hésitait encore à reprendre ses droits. La mousse avait commencé à s'établir dans les fines lézardes entre les pavés et aux angles des marches. Les corneilles et les freux, toujours dédaigneux de la prétendue domination des hommes, avaient bâclé quelques nids qui pointaient aux saillies des fenêtres ou s'inséraient dans les beffrois. Des algues tachaient les rebords des fontaines qui retenaient encore de l'eau de pluie dans leurs bassins ornementés. Des dômes s'étaient affaissés. Les murs de certains édifices, effondrés lors d'un lointain tremblement de terre, laissaient pénétrer la lumière d'automne et éparpillaient des décombres en travers de la rue. La nature finit toujours par triompher. La cité des anciens serait engloutie par la vie sauvage et il n'y aurait plus personne pour se souvenir du temps où les hommes et dragons cohabitaient. Tintaglia fut surprise de s'en trouver navrée. Les hommes tels qu'ils étaient à présent ne l'attiraient guère. « Il y avait eu une époque, » lui murmuraient les ancêtres au fond de son cerveau, « où l'essence des dragons s'était mêlée à la nature des hommes, et les anciens avaient procédé de ce mélange fortuit. Grands et minces, avec des yeux de dragon et une peau dorée, cette antique race avait vécu en symbiose avec les dragons et s'en enorgueillissait. Tintaglia parcourut lentement les rues assez vastes pour qu'elle pût y passer à l'aise. Elle parvint aux bâtiments officiels et grimpa les marches larges et basses qui avaient été élevées pour permettre à ses semblables d'avoir un accès aisé aux salles de réunion des anciens. Les murs noirs de l'édifice luisaient encore. Les bas-reliefs extérieurs s'ornaient de personnages d'un blanc éblouissant. Cariandre la Féconde labourait éternellement ses champs derrière son attelage de bœufs puissants, tandis que sur le mur adjacent, Sessicaire déployait ses ailes et trompetait silencieusement. Tintaglia passa entre les impavides lions de pierre qui montaient la garde à l'entrée. Une grande porte s'était effondrée. Alors que le dragon franchissait une seconde porte en bois monumental, un coup involontaire de sa queue la fit s'affaisser en mille fragments épars. Le bois n'avait pas la mémoire de la pierre. À l'intérieur, les piétements en chaîne des tables avaient cédé, réduits en monceaux de sciure écrasées sous les plateaux de pierre qu'ils avaient soutenus. Les fenêtres étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière. Le soleil filtrait à peine. Des lambeaux usés jusqu'à la corde de riches tapisseries pendaient au mur, telles des toiles d'araignées effilochées. Les souvenirs s'étaient amassés ici, denses, et faisaient entendre leurs clameurs, mais elles se concentraient résolument sur le présent. Le silence, la poussière, le vent murmuraient lugubrement à travers une fenêtre cassée. Peut-être quelque part dans le bâtiment subsistait-il des écrits? Mais les mots effacés sur un parchemin en miettes ne lui seraient d'aucun réconfort. Il n'y avait rien pour elle ici. Elle resta un moment encore à regarder autour d'elle. Puis elle se lança sur ses pattes postérieures et étira le cou pour rugir de colère et de déception, glapissant sa trahison au fantôme affolant qui hantait l'endroit. L'explosion de sa voix secoua l'air stagnant de la salle. Sa queue cinglait et éparpillait les débris de bureaux et de bancs, souleva un plateau de table en marbre qui alla se fracasser dans un coin. Au milieu de la salle, une tapisserie lâcha prise et tomba en une cascade de fils. Une nuée inquiétante de mythes se mit à tourbillonner. Tintaglia fouetta de la tête au bout de son cou sinueux en trompetant de fureur. Puis la crise s'apaisa aussi soudainement qu'elle s'était déclenchée. Le dragon reposa ses pattes antérieures sur les fraîches dalles noires. Il se tut et tendit l'oreille aux derniers échos de sa voix qui s'éteignait et mourait. S'éteindre et mourir. C'est ce qu'ils ont fait, tous. Et je suis le dernier écho insensé qui rebondit sur ses pierres et nulle oreille pour m'entendre. Tintaglia quitta la salle et rôda au hasard dans les rues désertes de la cité morte. Le jour tombait. Elle avait volé à tire-d'aile jusqu'ici pour seulement y découvrir la mort. La vaillante mémoire de la pierre en avait fait un lieu croupissant. La cité avait péri depuis des siècles, et pourtant la vie n'avait pas réussi à reprendre ses droits. Les veines de mousse qui se faufilaient à grand-peine dans les fissures des rues étaient pitoyables. Caractéristique des hommes, pensa Tintaglia avec dédain. Ce qu'ils ne peuvent plus utiliser, ils en interdisent l'usage aux autres animaux. L'amertume de sa réflexion l'étonna. Croyait-elle alors que les anciens ne différaient guère de ces hommes qu'il avait laissés emprisonner tant d'années durant? Elle fut distraite de ses pensées par la vue d'un puits à margelle de pierre et les vestiges d'un treuil. Une agréable impatience la saisit. Elle chercha à se rappeler un ancien souvenir. Ah oui, ici, il y a longtemps, ses semblables avaient bu, non pas de l'eau, mais la coulée d'argent liquide de la magie qui veinait la pierre de mémoire. Même pour un dragon, c'était un alcool puissant. En boire sans le diluer, c'était atteindre à l'unité avec l'univers. Le souvenir était tentant. Monta en elle un violent désir d'éprouver cette sensation. Elle flaira le rebord du puits, en scruta les profondeurs. En remuant la tête, elle crut apercevoir tout au fond un faible miroitement d'argent, mais elle n'en était pas certaine. Les étoiles ne brillaient-elles pas en plein jour tout au fond du plus profond des puits? Peut-être n'était-ce que cela. En tout cas, c'était hors de portée de ses dents ou de ses griffes. Ce n'était pas ici qu'elle boirait son contant de magie liquide. Aucun dragon n'y boirait plus jamais. Un tourment de plus pour elle que ce souvenir d'un plaisir auquel elle n'avait pas goûté et qui définissait le supplice de sa solitude. À geste mesuré, elle brisa les restes rouillés du treuil et les lança par l'orifice étroit où ils dégringolèrent dans un bruit de ferraille. Malta avait fermé les yeux sur le scintillement du fleuve. Quand elle finit par les ouvrir, le jour tombait. À cette petite grâce s'ajoutait la fraîcheur de la nuit. Le premier moustique se mit à bourdonner, ravi, près de son oreille. Elle voulut lever la main pour l'écraser, mais ses muscles étaient roidis comme si elle s'était rouillée en dormant. Avec un gémissement de souffrance, elle redressa la tête. Kéki n'était qu'un tas de loques fripées, mi-assises, mi-allongées au fond du canot. Comme morte. Malta fut saisie d'horreur. Elle ne pouvait pas être coincée dans ce canot avec une morte. Impossible. Puis sa sottise lui apparut. Un terrible sourire lui crispa le visage. Que ferait-il si Kéki était morte? Il la ferait passer par-dessus bord, dans l'eau acide? Elle en serait incapable, comme elle serait incapable de rester ainsi à contempler un cadavre en attendant de mourir elle-même. Elle pouvait à peine remuer la langue, mais elle réussit à croasser. Kéki? La compagne bougea la main sur les planches humides. Ce n'était qu'un tressaillement des doigts, mais au moins elle était encore vivante. Elle paraissait affreusement mal en point. Malta avait envie de la laisser là, mais sans savoir pourquoi, cela lui fut impossible. Tous les muscles de son corps protestèrent quand elle plia les genoux et se baissa au fond du canot. Mais elle n'eut pas la force de soulever Kéki pour l'installer plus confortablement. Elle ne put que la pousser légèrement. Elle resserra autour du corps les lambeaux de soie verte. Elle lui tapota le visage.
« Aidez-moi à vivre !»
La prière de la compagne était un chuchotement pitoyable. Elle n'avait même pas ouvert les yeux.
« J'essaierai. »
Malta douta d'avoir émis le moindre son, mais Kéki parut sentir les mots.
« Aidez-moi maintenant !»
répéta Kéki. Les efforts qu'elle faisait pour parler lui fendaient les lèvres. Elle respira dans un sanglot.
« Je vous en prie, aidez-moi à vivre maintenant et je vous aiderai plus tard. Je vous le promets. »
C'était l'engagement d'un enfant battu qui promet d'être obéissant si on cesse de lui faire mal. Malta lui tapota l'épaule. Gauchement, elle lui souleva la tête et la reposa à un endroit où le traversin du canot n'appuyait pas trop rudement sur sa joue. Elle se blottit contre le dos de la compagne pour partager sa chaleur. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Elle força sur les muscles raidis de son cou pour tourner la tête vers le gouverneur. Le grand monarque de Jamélia lui lança un regard méchant depuis le banc de nage où il se tenait accroupi. Son front enflé au-dessus de ses yeux bouffis déformait ses traits. Malta se détourna. Elle tâcha de se préparer pour la nuit en tirant ses bras dans ses manches, en remontant le col de sa robe aussi haut que possible et en ramenant les pieds sous ses jupes. Blottie contre Kéki au fond du canot, elle feignit de croire qu'elle avait plus chaud. Elle ferma les yeux et s'assoupit.
« Qu'est-ce ça ?»
Malta fit comme si elle n'avait pas entendu. Elle n'allait pas se laisser entraîner dans une nouvelle querelle. Elle n'en avait plus la force.
« Qu'est-ce ça ?»
répéta le gouverneur sur un ton insistant. Elle ouvrit les yeux, leva légèrement la tête, puis elle s'assit toute droite en faisant tanguer dangereusement le canot. Quelque chose venait au-devant d'eux. Elle scruta la nuit, tâchant d'identifier la forme. Seule une vive nef pouvait remonter le fleuve du désert des pluies. Tout autre vaisseau se désagrégeait sous l'action des eaux acides. Mais cette forme était plus basse qu'une vive nef et semblait n'avoir qu'une seule voile carrée. Des lanternes sourdes l'éclairaient à peine, mais Malta eut l'impression d'apercevoir du mouvement à chaque bord. La haute proue mal profilée dansait tandis que le navire remontait le fleuve. Malta se leva en faisant craquer ses articulations. Toute droite, pieds joints, incrédule, tardant à admettre l'évidence, elle contemplait le vaisseau qui avançait. Elle s'accroupit. Il faisait nuit, leur canot était petit. Il était possible que le navire les dépasse sans les voir.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda laborieusement le gouverneur.
« Chut ! C'est une galère chalcédienne !»
Malta fixa le vaisseau, les yeux écarquillés. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Que venait faire une galère chalcédienne sur le fleuve des pluies? Que venait-elle faire sinon espionner ou attaquer? Pourtant, c'était le seul navire qu'ils avaient vu. C'était le salut ou la mort violente. Alors qu'elle hésitait sur le parti à prendre, le gouverneur agit.
« au secours, par là, par là !»
Il se releva légèrement à l'arrière, s'agrippa au plat-bord d'une main et agita l'autre frénétiquement.
« Ils ne sont peut-être pas amis ?»
protesta Malta.
« Bien sûr que si. Ce sont mes alliés, les mercenaires que j'ai embauchés pour débarrasser les eaux de Jamélia des pirates. Regardez, ils battent pavillon jamélien. Ce sont mes mercenaires qui pourchassent les pirates. Et par là, à l'aide !»
Ils pourchassent les pirates en amont du fleuve ?
Rétorqua Malta sarcastique.
« Ce sont des bandits !»
Ils ne relevèrent pas sa remarque. Keki aussi s'était réveillée. Elle s'était hissée en position assise à l'avant, agitait faiblement le bras et émettait des miaulements inarticulés. Malta entendit, à travers leurs cris, l'exclamation de surprise de la vigie sur la galère. En quelques instants, une série de lanternes apparurent à l'avant du navire, projetant sur eux l'ombre déformée d'une proue à tête de monstre. Soudain, une silhouette les montra du doigt. Deux autres la rejoignirent. Des cris sur le pont trahissaient l'émoi général. Le navire dévia de sa route pour piquer droit sur eux. À ce qu'il leur sembla, il mit une éternité à les atteindre. Une ligne leur fut lancée que Malta attrapa au vol. Elle se raidit pendant qu'on tirait leur canot à couple. Les lanternes suspendues sur le bord de la galère l'éblouirent. Elle resta coite, la ligne à la main, tandis que le gouverneur puis Keki étaient hissés à bord. Quand arriva son tour, elle découvrit en touchant le pont que ses jambes ne la portaient plus. Elle s'effondra sur le bordage. Des voix chalcédiennes les pressaient de questions, mais elle se contentait de secouer la tête. Grâce à son père, elle possédait de vagues notions de la langue, mais elle avait la bouche trop sèche pour parler. Ils avaient donné de l'eau au gouverneur et à Keki, et celle-ci balbutiait des remerciements. Quand on lui présenta l'outre d'eau, Malta oublia tout le reste. Il la lui reprit avant qu'elle ait étanché sa soif. On lui lança une couverture. Elle s'en enveloppa les épaules et s'assit en tremblant misérablement, se demandant quel sort les attendait. Le gouverneur était parvenu à se remettre péniblement debout. Il parlait couramment le chalcédien, quoique d'une voix rendue rocailleuse par sa gorge en piteux état. Malta entendit vaguement l'imbécile se présenter et remercier. Les matelots écoutaient son discours avec des sourires hilares. Elle n'avait pas besoin de comprendre les mots. Leurs gestes et leurs tons trahissaient leur scepticisme. Kosgo finit par se fâcher, ce qui eut pour résultat de redoubler leur hilarité. Alors Keki reprit le dessus. Elle parlait plus lentement, mais là aussi Malta en apprit davantage par son intonation que par les quelques mots qu'elle parvenait à saisir. Peu importait ses habits sales et déchirés, son teint gâté, ses lèvres craquelées. Dans un chalcédien parfait, la compagne les réprimandait, les accablait de reproches, employant les pronoms nobles au lieu des formes vulgaires. En outre, Malta savait qu'aucune chalcédienne n'aurait osé s'exprimer ainsi, à moins d'avoir une confiance absolue dans la position de l'homme qui la protégeait du courroux des marins. Keki désignait tour à tour le pavillon de Jamélia qui pendait mollement au mât et le gouverneur. Malta vit l'attitude des hommes passer du dédain à l'hésitation. Le matelot qui l'aida à se relever prit garde de ne toucher que ses mains et ses bras. Tout autre comportement était une offense mortelle au frère ou à l'époux. Malta serra la couverture autour de ses épaules et suivit en chancelant le gouverneur et sa compagne. Elle ne fut pas autrement impressionnée par le navire. Un pont surélevé courait sur toute la longueur entre les bancs de nage. À l'avant et à l'arrière, il y avait des structures au-dessus du pont conçues pour le combat plutôt que destinées à servir d'abri. Ils furent escortés à l'arrière et introduits dans une cabine. Les marins les laissèrent là. Il fallut un moment à Malta pour ajuster sa vision. La cabine brillamment éclairée parut splendide à ses yeux éblouis. De riches fourrures couvraient le lit et un épais tapis réchauffa ses pieds nus. Un petit brasero brûlait dans un coin, donnant fumée et chaleur qui lui piquèrent la peau. Un homme assis à une table de cartes achevait de tracer une ligne et inscrivit une note. Il leva lentement les yeux pour les examiner. Le gouverneur, hardiment ou étourdiment, s'avança et se laissa tomber sur un siège à côté de la table. Il parla sur un ton qui n'était ni impérieux ni quémandeur. Elle saisit le mot « vin ». Keki s'affaissa au pied de Kosgo. Malta resta près de la porte. Elle observait le déroulement des événements comme si elle assistait à une pièce de théâtre. Le cœur serré, elle comprit que son sort était entre les mains de Kosgo. Elle ne se fiait pas à son sens de l'honneur ni à son intelligence. Cependant, elle était prisonnière des circonstances. Elle ne parlait pas suffisamment la langue pour s'exprimer et elle connaissait parfaitement le statut inférieur de la femme chez les Chalcédiens. Si elle tentait de se déclarer indépendante du gouverneur, elle se priverait elle-même de la protection qu'il pouvait lui offrir. Elle resta silencieuse, tremblant de faim et de fatigue, et observa la scène qui allait décider de son sort. Le mousse apporta du vin et un plateau de gâteaux secs. Elle dut se résigner à voir le capitaine se verser un verre puis servir son hôte. Ils burent ensemble. Ils parlèrent, surtout le gouverneur, qui ponctuait ses paroles de fréquentes gorgées de vin. On lui apporta un bol fumant. Tout en mangeant, il tendait à Keki un biscuit ou un morceau de pain comme il l'aurait fait à un chien sous la table. La femme prenait les rogatons et les grignotait lentement sans manifester qu'elle en désirait davantage. Elle était à bout de force, mais paraissait s'appliquer à suivre la conversation. Pour la première fois, Malta éprouva à son égard un sentiment d'admiration. Peut-être était-elle plus coriace qu'elle n'en avait l'air. Après les rigueurs de ces derniers jours, ses yeux étaient réduits à des fentes dans son visage tuméfié, mais son regard s'éclairait d'une lueur d'intelligence. Leur repas achevé, les hommes restèrent à table. Un jeune garçon entra chargé d'une boîte en laque. Il en sortit deux pipes en terre et des pots d'herbe à fumer. Le gouverneur se redressa avec une exclamation de plaisir. L'impatience brillait dans ses yeux tandis que le capitaine bourrait une pipe et la lui tendait. Il se pencha vers la flamme que le Chalcédien lui offrait. Le mélange des herbes stupéfiantes s'alluma et Kogo tira une longue bouffée. Il garda la position, retint son souffle, un sourire béat sur la figure, puis il se laissa aller en arrière et exhala la fumée avec un soupir de contentement. Bientôt, des volutes de fumée flottèrent dans la chambre. Les hommes causèrent longuement, rirent souvent. Malta avait du mal à garder les yeux ouverts. Elle tâchait de fixer son attention sur le capitaine et de jauger ses réactions aux paroles du gouverneur, mais elle avait grand-peine à se concentrer. La table et les hommes à l'extrémité de la chambre reculaient dans une chaude distance. Leur voix n'était plus qu'un murmure apaisant. Elle retrouva sa vigilance quand le capitaine se leva. Il tendit une main vers la porte, invitant Kosgo à le précéder. Celui-ci se leva à son tour avec raideur. La nourriture et le vin paraissaient lui avoir redonné un peu de force. Keki voulut suivre son maître, mais s'effondra à nouveau sur le sol. Le gouverneur émit un reniflement de dédain et dit quelque chose de désobligeant au capitaine, puis son regard se porta sur Malta.
« Aidez-la, saute !»
ordonna-t-il avec mépris. Les hommes quittèrent la cabine sans se retourner pour voir si les deux femmes les suivaient. Malta prit à la dérobée un biscuit sur la table qu'elle fourra dans sa bouche. Elle le mâcha et l'avala précipitamment. Elle ne comprit pas où elle trouva la force d'Edekeki à se relever et à marcher. La compagne trébuchait sans cesse en s'accrochant à Malta et elles avançaient en titubant. Les hommes avaient parcouru le navire dans toute sa longueur et elles durent presser le pas derrière eux. Malta n'aima pas les regards que certains matelots posaient sur elle. Ils paraissaient se moquer de son apparence tout en les lorgnant, Keki et elle. Elles firent halte derrière le gouverneur. Un homme débarrassait en hâte ses affaires d'une tente grossière à armature de bois dressée sur le pont sous le château arrière squelettique. Dès qu'il eut ôté son attirail, le capitaine fit signe au gouverneur de pénétrer sous la tente. Celui-ci inclina gracieusement la tête et entra dans la chambre de fortune. Alors que Malta aidait Keki, l'homme qui avait déménagé ses affaires posa une main sur son bras. Elle le regarda, interdite, se demandant ce qu'il lui voulait. Avec un large sourire, il adressa une question par-dessus sa tête au gouverneur. Kosgo répondit par un éclat de rire, puis secoua la tête. Il ajouta quelque chose avec un haussement d'épaule. Malta saisit les mots « plus tard ». Puis il roula des yeux comme s'il s'étonnait de la question. L'homme fit mine d'être déçu et, comme par inadvertance, caressa le bras de Malta, effleura la courbe de sa hanche. Elle eut un hoquet de stupéfaction. Le capitaine donna une bourrade amicale à l'homme et elle conclut que ce devait être le second. D'abord troublée par ce qui venait de se passer, elle décida de ne pas s'en inquiéter. Elle aida Keki vers l'unique lit de camp, mais arrivée à côté, la compagne se laissa tomber mollement sur le pont. Malta l'attira vainement par le bras.
« Non !»
marmotta Keki.
« Laissez-moi là, allez à la porte !»
Malta la regarda, consternée, et la femme rassembla toutes ses forces pour lui ordonner
« Ne posez pas de questions maintenant, faites ce que je vous dis !»
Malta hésita, puis surprit le regard du capitaine posé sur elle. Elle se leva gauchement et traversa en boitant la chambre pour se poster près de la porte. « Comme une servante !» comprit-elle soudain. La colère la dévorait sans lui donner de force. Elle laissa ses yeux errer dans la petite pièce. Les parois étaient faites de peau. Il n'y avait qu'un lit de camp et une étroite table où brillait une lanterne. C'était tout. Provisoire, à l'évidence. Vraiment? Un instant après, le capitaine souhaitait une bonne nuit au gouverneur. Dès que le rabat retomba derrière l'homme, Malta s'affaissa par terre. Elle avait toujours faim et soif, mais se contenterait pour le moment de dormir. Elle s'enveloppa dans sa couverture.
« Levez-vous !»
conseilla le gouverneur.
« Quand le mousse va revenir apporter à manger à Keki, il s'attendra que sa servante prenne le plateau. Ne m'humiliez pas en refusant de le faire. Il va aussi apporter de l'eau chaude. Quand vous m'aurez donné mon bain, vous pourrez vous occuper d'elle. »«
Plutôt me jeter par-dessus bord !»
déclara Malta. Et elle ne bougea pas.
« Alors restez ici !»
La nourriture et le vin lui avaient fait retrouver son arrogance. Avec un mépris total de Malta, il commença à ôter ses vêtements sales. Outré, elle détourna le regard, mais ne put éviter d'entendre ses paroles.
« Vous n'aurez pas à vous jeter par-dessus bord. Les matelots s'en chargeront sûrement quand ils en auront fini avec vous. C'est ce qu'a demandé le second quand vous êtes arrivé. Est-ce que celle qui a la cicatrice est disponible ?» Et je lui ai répondu que vous étiez la servante de ma compagne, mais que peut-être, plus tard, elle vous laisserait un peu de temps.
Un sourire suffisant retroussa les commissures de ses lèvres. D'une voix mielleuse, il poursuivit.
« Ne l'oubliez pas, Malta. Sur ce navire, c'est comme si vous étiez en Calcède. Si vous n'êtes pas à moi, alors vous n'appartenez à personne. Et en Calcède, la femme de personne est la femme de tout le monde. »
Malta l'avait déjà entendu dire, mais n'en avait pas saisi toutes les implications. Elle serra les mâchoires. La voix enrouée de Keki la fit se retourner.
« Le gouverneur Magnadon exprime la vérité, ma fille. Levez-vous, si vous voulez vous épargner. Soyez une servante. »
Elle soupira et ajouta énigmatiquement,
« Rappelez-vous la promesse que je vous ai faite, et écoutez-moi. Il faut vivre, si tant est que l'un de nous s'en sorte. Son statut nous protégera si nous le protégeons. »
Le gouverneur écarta ses vêtements d'un coup de pied. Son corps pâle choqua Malta. Elle avait déjà vu des débardeurs et des paysans la poitrine dénudée, mais elle n'avait jamais posé les yeux sur un homme complètement nu. Malgré elle, son regard fut attiré par les parties génitales. Elle savait qu'on appelait ça « virilité ». Elle s'était attendue à autre chose qu'à ce pédoncule rose écourté dans un nid de poils bouclés. Le membre pendillant ressemblait à un ver malsain. Les hommes étaient-ils tous faits ainsi? Elle était dégoûtée. Comment une femme pouvait-elle supporter le contact d'une chose aussi répugnante? Elle détourna vivement les yeux. Il ne parut pas remarquer son dégoût. Au contraire, il se plaignit.
« Oh, hello de mon bain, Malta, allez voir ce qui se passe !»
On frappa au pilier de bois avant qu'elle eût le temps de protester. Elle se remit précipitamment debout, se méprisant pour avoir capitulé. Le rabat se souleva et le mousse chargé de dosseaux d'eau entra en poussant du pied un baquet en bois. Il déposa ses fardeaux et regarda éberlué le gouverneur comme si lui non plus n'avait jamais vu un homme nu. Elle se demanda s'il était surpris par la pâleur ou par la mollesse et la minceur du corps. Même Selden avait une poitrine plus musclée. Derrière le mousse arriva un matelot qui portait un plateau. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis tendit le plateau à Malta tout en indiquant d'un geste qu'il était destiné à Keki. Le mousse et le marin sortirent.
« Donnez-lui à manger !»
lança le gouverneur hargneux alors qu'elle regardait fixement le plateau chargé de biscuits de mer, d'un brouet clair et d'eau.
« Puis venez ici et versez-moi l'eau de mon bain !»
Il enjamba le baquet peu profond et s'accroupit. Il resta là, assis sur les talons, à attendre. Elle lui lança un regard noir. Elle était coincée, elle le savait. Elle traversa la pièce et posa sans douceur le plateau par terre à côté de Keki. La femme tendit la main, prit un morceau du dur biscuit de mer qu'elle abandonna aussitôt, reposa la tête sur ses bras et ferma les yeux.
« Je suis tellement fatiguée, »
murmura-t-elle d'une voix rauque. Pour la première fois, Malta remarqua que du sang frais perlait à la commissure des lèvres de la compagne. Elle s'agenouilla près d'elle.
« Vous avez bu beaucoup d'eau du fleuve ?»
demanda-t-elle. Mais Keki se borna à soupirer profondément, sans bouger. Timidement, Malta lui effleura la main. La compagne ne réagit pas.
« Ne vous en faites pas pour elle. Venez ici et versez-moi de l'eau. »
Malta couvait la nourriture des yeux. Sans se retourner, elle porta le bol de bouillon à sa bouche et en but la moitié avec avidité.
Du liquide et de la chaleur, tout ensemble. Merveilleux.
Elle brisa un morceau de biscuit et le mit dans sa bouche. C'était dur et sec et coriace, mais ça se mangeait. Elle le rongea.
« Obéissez tout de suite ou j'appelle le matelot qui vous désire. »
Elle resta où elle était. Elle avala le morceau de biscuit. Elle prit le flacon d'eau et le vida à demi. Elle serait digne. Elle laisserait l'autre moitié à Keki. Elle jeta un coup d'œil au gouverneur. Il était accroupi, nu, dans son baquet. Ses cheveux ébouriffés et son visage brûlé par le vent donnaient l'impression que sa tête n'appartenait pas à son corps livide.
« Si vous saviez, »
dit-elle sur un ton désinvolte,
« vous avez tout à fait l'air d'un poulet plumé dans une poêle à frire. »
La figure gercée de Kosgo se marbra de taches rouges.
« Comment osez-vous vous moquer de moi ? »
demanda-t-il furieux.
« Je suis le gouverneur de Jamelia et... »«
Et moi, je suis la fille d'un marchand de Terrilville, et je serai un jour marchande. »
Elle secoua la tête.
« Je crois somme toute que ma tante Althea avait raison. Nous ne devons pas allégeance à Jamelia. Je ne me sens absolument aucune obligation à l'égard d'un gringalet qui ne sait même pas se laver tout seul. »
Vous ? Vous vous croyez marchande de Terrilleville, ma petite fille ? Mais en réalité, vous savez ce que vous êtes ? Morte. Morte pour ceux qui vous ont connue. Vous chercheront-ils sur ce fleuve ? Non. Ils vous pleureront une semaine ou deux, puis ils vous oublieront, comme si vous n'aviez jamais existé.
Ils ne sauront jamais ce que vous êtes devenu. J'ai parlé au capitaine. Ils virent de bord, en aval. Ils exploraient en amont, mais maintenant qu'ils m'ont secouru, ils ont changé leur projet, bien sûr. Nous allons rejoindre leurs compatriotes à l'embouchure du fleuve et faire route tout droit vers Jamelia. Vous ne reverrez jamais Terrilleville. Alors, c'est votre vie maintenant et vous n'aurez pas mieux.
À vous de choisir, Malta Vestrit, autrefois de Terrilleville.
Servante, et vous vivrez. Souillon fini, et vous mourrez, jeté d'une galère de guerre.
Le biscuit se coinça subitement dans la gorge de Malta. Elle vit à son sourire froid qu'il disait la vérité. Son passé lui avait été arraché. C'était sa vie désormais. Elle se leva lentement et traversa la pièce. Elle baissa les yeux sur l'homme qui allait la commander, toujours accroupi à ses pieds dans une posture incongrue. Et il désigna les sceaux d'un geste dédaigneux. Elle se demanda ce qu'elle allait faire. Tout lui parut soudain si lointain. Elle était si lasse, si désespérée. Elle ne voulait pas être une servante, mais elle n'avait pas envie non plus qu'on abuse d'elle et qu'on la jette en pâture à de sales matelots jaméliens. Elle voulait vivre. Elle ferait ce qu'il faudrait pour ça. Elle souleva un seau fumant. Elle s'avança vers le baquet et versa lentement sur lui un filet d'eau jusqu'à ce qu'il soupire de plaisir dans la chaleur. Une bouffée de vapeur la fit sourire. Les imbéciles avaient fait chauffer l'eau du fleuve pour le bain. Elle aurait dû le deviner. Un bâtiment de cette taille ne pouvait loger de grandes provisions d'eau douce. Il l'économisait. Les Chalcédiens savaient évidemment qu'ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve, mais ils n'avaient pas compris qu'il ne fallait pas l'utiliser pour se laver, car ils ne devaient probablement pas prendre de bain. Ils ignoraient ce qui en résulterait pour lui. Demain, il serait couvert de cloques. Elle lui demanda avec un sourire suave : « Je vous verse aussi le second seau ? »